Carré, la tête, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle Tête au carré. Demain sortira sur les écrans Contagion, le nouveau film de Steven Soderbergh avec Marion Cotillard et Matt Damon. Ce thriller bactériologique met en scène une pandémie dévastatrice qui explose à l'échelle du globe. Hier, l'Institut Pasteur a organisé un débat autour du film pour savoir si cette histoire était plausible. On en parle dans la revue de presse avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Aux origines de la médecine, les éditions Fayard publie un ouvrage passionnant et complet sur l'évolution de la médecine depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est le dossier de la Tête au carré cet après-midi. Et pour en parler, je reçois les professeurs Armel Debru et Didier Sicard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Armel Debru, vous avez signé un des chapitres du livre sur la médecine hippocratique. On va en parler avec vous. Une médecine qui a beaucoup inspiré notre médecine actuelle. Et Didier Sicard, vous avez dirigé cet ouvrage avec Georges Vigarello. On parlera également éthique avec vous. On va revenir ensemble donc sur les bouleversements et les métamorphoses qui se sont produits au sein de la médecine depuis des siècles, sur les rapports qui se sont noués avec les hommes et sur les perspectives de la médecine de demain. Je vous retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct avec les questions sur franceinter.fr. Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de Vincent Olivier avec l'Express. Vincent qui s'intéresse cette semaine aux amalgames dentaires. C'est Violaine Ballet qui réalise cette Tête au carré, dossier préparé par Chantal Le Montagnier avec Lucie Sarfati et Anne-Cécile Perrin.
Revue de presse dans la Tête au carré.
Les frites OGM frappent à la porte de l'Europe. Dans le Figaro aujourd'hui, Éric de Lachesnais revient sur la demande d'agrément déposée par le géant mondial de la chimie BASF pour la commercialisation d'une pomme de terre OGM résistante au mildiou. Ce champignon qui se développe par temps humide détruit jusqu'à 20% des récoltes annuelles dans le monde et c'est la raison pour laquelle le groupe allemand a déposé une demande d'enregistrement européen auprès de l'Agence britannique de sécurité alimentaire pour cette nouvelle variété de patates baptisée Fortuna. Afin de démontrer son intérêt au grand public, BASF explique que sa patate OGM permettra de réduire le recours aux pesticides. 3 traitements au lieu de 15 actuellement. Un argument que dément Lionel Villain, conseiller technique au sein de France Nature Environnement. Il souligne que les OGM montrent très vite leurs limites en rappelant l'exemple du coton. Au bout de 2 ou 3 ans, les agriculteurs utilisent à nouveau la même quantité de traitements, voire plus qu'avec les semences conventionnelles. Pour les associations de protection de l'environnement, BASF commet une erreur stratégique en voulant imposer une pomme de terre OGM alors qu'une majorité de consommateurs y est opposée. En cas d'autorisation, le Figaro note que Fortuna sera commercialisée pour 2014-2015. La mention pomme de terre OGM devra être précisée par étiquetage, qu'elle soit vendue en vrac ou comme un produit transformé. Le journal du CNRS ce mois-ci nous fait découvrir le nouveau véhicule d'exploration martienne de la NASA, baptisé Curiosity, le rover, quittera la Terre fin novembre, début décembre, à bord d'une fusée Atlas V, emportant à son bord une dizaine d'instruments scientifiques. L'objectif de cette mission extraordinaire est de répondre à une question tout aussi fascinante que lancinante. Y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie sur la planète rouge? L'article du CNRS rappelle que depuis 10 ans, les indices allant dans ce sens se sont multipliés, découverte d'anciens lits fluviaux, présence de carbonate, d'argile, jusqu'à l'observation en août dernier de possibles écoulements d'eau dans un cratère martien. Concrètement, Curiosity devra arriver sur place vers le 6 août prochain et se balader pendant 2 ans au fond d'un cratère afin de rechercher des molécules telles des acides aminés, des sucres ou des acides carboxyliques. Le responsable de l'instrument, Michel Cabane, espère que cela permettra de découvrir des assemblages bizarres, caractéristiques d'une chimie prébiotique éteinte. L'idéal serait de mettre en évidence donc une forme de vie passée ou présente. Un robot en quête de vie sur Mars, et c'est donc à lire dans le journal du CNRS. Notez que la revue est téléchargeable gratuitement sur le site du CNRS et il est en lien sur celui de la Tête au carré. Et puis on termine avec le film Contagion du réalisateur américain Steven Soderbergh qui sort demain sur les écrans. Thriller bactériologique, le film parle d'une maladie virale inconnue qui surgit puis se répand sur l'ensemble du globe. Un scénario de pandémie qui se veut ultra réaliste à la limite du documentaire. Pour savoir si le pari est réussi, nous sommes en ligne avec le professeur Arnaud Fontanet. Bonjour Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, responsable de l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et alors, hier soir, vous avez organisé une projection de Contagion suivie d'un débat. C'est assez fréquent ça à l'Institut Pasteur ?
Bon, en tout cas, la sortie d'un film qui parle d'événements comme l'arrivée d'une pandémie telle celle qui est présentée dans le film Contagion, non, on n'en voit pas très souvent, et on voit aussi rarement des films de cette qualité. Je voudrais dire que le film est scientifiquement très bien fait, inspiré de faits réels, hein, beaucoup basé sur l'épidémie de SARS qui était partie de Hong Kong en 2003. Mm-hmm. Et mes collègues et moi-même qui animions le débat, on a tous été unanimes pour dire que c'est un film qui présente, je dirais, parmi toutes les éventualités possibles, certes le scénario le plus noir, mais qui reste plausible et scientifiquement très bien monté.
Donc c'est une bonne note, hein, pour ce film Contagion à voir à partir de demain, donc avec Marion Cotillard, Matt Damon et Jude Law. Donc scénario de pandémie est plausible selon vous, à quel pourcentage quasiment ?
Alors, il serait difficile de mettre des pourcentages ici. Ce que je voudrais dire, c'est que si on reprend les deux grandes pandémies qu'on a eues depuis dans les 10 dernières années, en 2003, il y a eu ces pneumopathies atypiques qui venaient du sud-est de la Chine, le SARS. Mm-hmm. Et là, on avait un virus qui était volontiers mortel, tuait à peu près 10% des personnes infectées, mais dont la dissémination pouvait heureusement être contrôlée. Les mesures mises en place ont stoppé la progression de l'épidémie. En 2009, avec la pandémie du virus grippal H1N1, on a eu à l'inverse un virus très transmissible, mais à mortalité faible, mm-hmm. donc qui n'a pas eu l'impact redouté. Et là, finalement, le film nous montre un virus qui est un peu le mauvais côté des deux, c'est-à-dire à la fois très transmissible et mortel. Et on se retrouve dans une situation que nous redoutons tous et qui, même si sa probabilité est faible, ne peut pas être écartée.
Oui. Donc ce virus imaginaire, dans le film, surgit justement d'Asie du Sud-Est. C'est souvent d'ailleurs le lit des virus, hein.
Alors l'Asie du Sud-Est a été effectivement pointée souvent, aussi bien pour les pandémies grippales que pour l'épidémie de SARS. Dans le film, le virus qui est présenté est un espèce d'amalgame entre un virus de chauve-souris qu'on appelle Nipah, et les dernières images du film montrent comment les chauves-souris infectent les cochons qui eux-mêmes arrivent dans les restaurants et infectent le cuisinier et les clients. Et c'était aussi un peu ce qu'on a vu avec le SARS, où là, dans les restaurants de nourriture exotique de Canton, mmh. bien, c'était des civettes, un petit animal carnivore qui est consommé par les clients chinois qui ont infecté les clients du restaurant. Elles étaient vivantes dans des cages à l'entrée du restaurant et elles se débattaient au moment où elles étaient choisies parce qu'elles se doutaient bien qu'elles allaient passer à la casserole. Mmh. Et là, elles infectaient le cuisinier, les serveurs, les clients. Donc effectivement, on a souvent vu ce type de pandémie démarrer d'Asie du Sud-Est. C'est en partie lié à une très grande biodiversité animale, aussi à une très forte densité humaine. Et puis, quand on repense à Hong Kong, c'est un aéroport qui touche la planète et notamment dans l'épidémie de SARS. En moins de 24 heures, une fois que la maladie avait atteint Hong Kong, le virus s'est retrouvé dans 6 pays différents. On a très bien mis en évidence l'épisode de contagion dans un hôtel de Hong Kong qui a été suivi par une dissémination 24 heures plus tard sur des pays comme le Canada, le Vietnam, Singapour, États-Unis, Irlande. Et donc on voit le potentiel pandémique d'aujourd'hui lié à des virus extrêmement mobiles maintenant que les avions nous emmènent aux quatre coins du globe.
Alors Arnaud Fontanet, on voit également dans le film la réaction des autorités sanitaires américaines, de l'OMS et puis aussi la panique, hein, qui gagne peu à peu la population. Là aussi, le scénario vous semble assez fidèle à une possible réalité ?
Ça l'est, finalement. Là, il y avait des raisons, j'ai envie de dire, de paniquer, hein, puisque les morts se comptent par millions, mais reprenez encore l'épisode du SARS, on était resté finalement à 8000 personnes touchées dans le monde, 700 décès, et pourtant, une désorganisation sociale majeure. Pourquoi ? Parce que les malades arrivant dans les hôpitaux infectaient le personnel hospitalier, donc les hôpitaux n'étaient plus fonctionnels, on devait hospitaliser les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les autres malades des urgences étaient infectés. Mmh. Une ville comme Toronto, en l'espace d'une semaine, a vu 5 hôpitaux fermés et complètement paralysés dans son fonctionnement même en termes de santé. Et puis là encore, la fermeture de grands aéroports comme celui de Hong Kong ont fait qu'une compagnie aérienne comme la Cathay Pacific a été sur le point de déposer son bilan. Donc un impact qui va bien au-delà d'une comptabilité en termes de malades et de décès. Ces pandémies, par leur capacité à toucher les quatre coins du globe en quelques jours, peuvent avoir un impact très fort sur l'organisation de nos sociétés.
Arnaud Fontanet, juste une question de Didier Sicard, donc, qui est à mes côtés. Au sujet du virus Ebola, vous me parliez tout à l'heure quand on évoquait justement ce film Contagion. Ça vous inspire justement ce virus extrêmement transmissible?
Oui, c'est un virus terrifiant et extrêmement transmissible et mortalité considérable, mais heureusement, depuis au XXe siècle, les quelques épidémies qui ont eu lieu ont à chaque fois été enfermées. Mais on pourrait imaginer un scénario catastrophe d'un malade qui hébergerait le virus, débarquerait au sein d'une foule, dans un stade ou dans une réunion, un symposium, et qui à ce moment-là pourrait être responsable d'une mortalité. Ça s'arrêterait probablement en quelques semaines. Mais on pourrait imaginer que... En quelques semaines, les dégâts pourraient être absolument considérables.
Arnaud Fontanet, donc Contagion, hein, vous nous le conseillez visiblement. Vous avez été plutôt emballé par ce film de Steven Soderbergh. Donc demain, sur les écrans, avec Marion Cotillard, Matt Damon et Jude Law. Merci pour vos explications.
Merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
La tête carré sur France Inter.
Et nous partons aux origines de la médecine, donc dans un instant avec mes invités, les professeurs Armel Debru, Didier Sicard, et vos messages, vos questions, vos témoignages, tout ce que vous souhaitez par internet sur franceinter.fr. All my life I was swinging for the fence, I was looking for the triple, never playing good defense, gunning for the glitter, every hot and heavy hitter, she was never really there, so I couldn't really get a set back. I'm just a piece of it, factually, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. I'm feast on this, I was fishing for a hook. So I took a little trip, and I opened up the book. I said, factually, I'm just a piece of it, factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. From the hip, she was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was slipping in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, I, the very least of it. Factually, I, it's just a medicine. Makes you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife. I think you're right. Programmation musicale de Chewbacca avec à l'instant Red Hot Chili Peppers avec Factory of Faith.
La tête.
Du point de vue cardiovasculaire, le malade est parfait. Du point de vue cérébral, il nous donne des soucis.
Aucune importance, ça ne nous gêne pas du tout.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Aux origines de la médecine, c'est donc un ouvrage qui sort aux éditions Fayard et qui raconte l'évolution de cette science depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, avec même des projections vers le futur. C'est le dossier de la tête au carré. Et pour en parler, les professeurs Armel Debru et Didier Sicard, vous nous rejoignez avec vos courriels sur franceinter.fr. Armel Debru, vous êtes professeur émérite d'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes et vous participez à la formation universitaire en éthique médicale dans le cadre de l'assistance publique des hôpitaux publics de Paris. Et vous avez signé le chapitre consacré à la médecine hippocratique. On en parle avec vous dans un instant. Et puis Didier Sicard, vous êtes médecin et ancien président du Comité consultatif national d'éthique, professeur de médecine à Paris-Descartes. C'est vous qui avez dirigé ce livre avec Georges Vigarello. Alors c'est un vaste territoire que vous avez exploré pour cet ouvrage, Didier Sicard, depuis des temps très anciens, puisque vous remontez à la préhistoire. C'est un travail très ambitieux et vous avez demandé à de nombreux scientifiques de vous aider pour participer à l'exploration de ce champ très vaste.
Oui, c'est pas une histoire en escalier qui donnerait le sentiment qu'en 2011, on peut regarder 3000 ans ou 5000 ans de médecine avec une espèce de surplomb glorifiant l'époque contemporaine au détriment du passé. C'est une interrogation et une étude que j'ai trouvée passionnante parce que ceux qui l'ont écrit ont montré l'éternelle contradiction qu'il y a entre une médecine éprise de rationalité et puis les croyances. Et qu'on croit toujours que la médecine s'est débarrassée de la magie, alors qu'en fait, non seulement elle ne s'est pas débarrassée, mais que croyance et rationalité, magie et science continuent de coexister comme elles ont toujours coexisté.
C'est-à-dire ?
Et c'est-à-dire que l'homme a toujours en même temps demandé aux dieux, à la nature, le soin de le réparer, et puis en même temps à la science de lui apporter une réponse concrète. Mais au lieu de s'opposer, quelle que soit la culture, il y a cette symbiose permanente que chacun, même des êtres humains en 2011, éprouve, avec le sentiment qu'il faut faire confiance à la médecine, mais que la médecine ne peut pas tout, et que probablement, en changeant son environnement, sa nourriture, en partant se reposer, en changeant, il y a une sorte de persistance de la croyance. Au fond, et l'ambiguïté contemporaine, c'est que la médecine n'a pas à avoir grand-chose à faire avec le bien-être. Et que le bien-être, actuellement confisqué par la médecine, finit par être en fait beaucoup plus en rapport avec l'environnement, les rapports sociaux, la pauvreté, la richesse. Il y a une sorte d'éternité de cette quête en même temps d'une science et en même temps d'une réparation magique. Et je trouve que c'est une histoire qui fait que le passé nous éclaire énormément sur le présent.
Alors justement, Armel Debru, la médecine hippocratique, vous le dites, a joué un rôle absolument prépondérant dans la médecine aujourd'hui que nous utilisons. Et justement, c'est le début de la rationalité qui vraiment prend ses distances avec la magie, avec la croyance.
Oui, tout à fait. C'est même un problème essentiel dans la constitution de notre médecine. C'est-à-dire, c'est le moment où à la fois apparaît une médecine qui se définit comme telle, qui veut se constituer comme telle, avec ses règles, ses références, sa rationalité, et qui en même temps a affaire dans la population à d'autres conduites, à des prétentions, à des essais. Et elle a plusieurs attitudes possibles. Soit elle se renferme, elle essaie de se concentrer sur elle-même, et c'est ce qu'elle fait, et de trouver des règles scientifiques et de comportement. Et en même temps, que doit-elle faire justement de ses frontières, hein. Ses frontières avec la religion, ses frontières avec la magie, ses frontières avec la philosophie qui, elle aussi, a des prétentions.
Et qui sont aussi des médecines à leur manière.
Voilà, hein. Tout à fait, ce sont des médecines. Ne parlons pas de la religion, puisqu'il y a un dieu guérisseur, il y a des dieux guérisseurs. Ouais. Comme aujourd'hui, il y a des saints qu'on invoque lorsqu'on veut guérir, lorsqu'on veut moins souffrir, et qui sont tout à fait légitimement intégrés dans l'univers de notre médecine, si j'ose dire, de ce que nous éprouvons et que faire. Alors, il y a plusieurs attitudes possibles. Et vis-à-vis de la religion, il y a une sorte de la vraie religion, c'est-à-dire du culte d'Asclépios. On voit que les hippocratiques ont été très, très modestes, très réservés, n'ont pas pris position. D'abord, ils descendaient du dieu Asclépios, selon la légende elle-même. Et il y a d'une manière concomitante, comme disait Didier Sicard, des gens qui vont dans les temples d'Asclépios et qui vont voir le médecin rationaliste, le médecin hippocratique.
Alors Didier Sicard, de quelle médecine d'ailleurs vous parlez ? Quand on écrit un ouvrage sur les origines de la médecine, on s'intéresse à quelle médecine ? Parce qu'aujourd'hui, ici en Occident, on peut parler d'une médecine officielle, mais à côté de cette médecine, il y a plein de médecines alternatives aussi qui sont très utilisées par les patients. Comment on traite le sujet véritablement ?
Mais justement, c'est de montrer que la médecine cherche perpétuellement à asseoir sa rationalité sur une accumulation de connaissances, mais qu'en même temps, elle reste assez humble, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement attentive. Je prends un exemple. Coexistent dans notre pays, par exemple, des rhumatologues et des ostéopathes. Les ostéopathes n'ont pas de prétention à avoir une science médicale rationnelle. Et pourtant, le citoyen qui a mal dans le genou va aller voir son rhumatologue, puis en même temps, il va aller voir quelquefois son ostéopathe, avec des résultats variables. Mmh. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le recours à une irrationalité que ce n'est pas une médecine. Au fond, le problème, c'est que la médecine se constitue comme un corpus scientifique, de plus en plus, et on verra que ce corpus scientifique, à un moment donné, finit par confisquer quelque part l'existence humaine au profit de la médecine. Et puis, il y a d'autres médecines qui ont parfaitement droit de citer, parce que l'imaginaire d'un être humain est beaucoup plus large que ce que peut en dire la médecine.
Alors c'est vrai, c'est Thierry Janssen dans un des articles du livre qui rappelle qu'aujourd'hui en France, 75% de la population aurait recours au moins une fois à une thérapie alternative ou complémentaire, alors principalement pour des problèmes d'anxiété, de dépression ou de douleur dorsale par exemple.
Et paradoxe, c'est que les
étudiants... C'est important quand même. Hein.
Oui, et que les étudiants en médecine, alors c'est un peu ambigu, et qui sortaient de l'université il y a quelques années, on a fait un sondage. Le plus grand nombre, quand ils s'installaient en médecine générale, se comportaient comme des médecins entre le chamanisme et la médecine. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, alors qu'ils étaient nourris de culture scientifique, savaient que la demande pouvait être ambiguë.
Mmh. Armelle Debrue ?
Oui, je crois qu'il faut à ce propos distinguer quand même plusieurs irrationnels et plusieurs frontières. Il y a celles qui sont avec, par exemple, la religion et la médecine, ou celles qui sont jugées comme acceptables par les médecins, et puis celles qui sont jugées comme inacceptables. C'est ce qui se produit à l'époque hippocratique, où lorsque le médecin hippocratique voit des gens qui n'ont aucune légitimité, comme les magiciens, ce qu'on appelle les magiciens, ou les charlatans donnaient des explications pseudo-médicales et des traitements, infligeaient des traitements médicaux, entre guillemets, à leurs patients, là, ils s'opposent. Ils luttent.
Avec, c'est la science, quoi.
Voilà,
hein,
ils luttent de toute leur force avec leurs connaissances, leur rationalité, leur raison, leurs argumentations pour éliminer ce genre de personnes-là. Donc, il y a des attitudes un peu différentes entre l'acceptation d'une conduite religieuse et le refus d'avoir des compétiteurs qui n'ont aucune légitimité, qui sont même des charlatans.
Alors, on a un message de Merlot sur franceinter.fr qui nous demande si les druides étaient des sorciers ou bien des médecins. Didier Sicard.
Alors, je n'ai pas de compétences pour répondre, mais je pense qu'ils avaient fini par acquérir une capacité expérimentale d'usage des plantes. Mais alors, aller plus loin, je ne serais incapable de répondre.
Armelle Debrue, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je pense que sans connaître l'histoire de la médecine gauloise, je sais qu'elle existe. Je veux dire qu'il y avait des sanctuaires, des lieux où les gens allaient se rendre pour être guéris. Et d'autre part, la connaissance des plantes a toujours été une sorte de connaissance qui faisait partie de toutes les populations. Donc là, il y avait des gens, dans toutes les populations, il y a eu des gens qui étaient doués pour soigner, qui recueillaient un savoir, sans avoir le titre de médecin. Je crois que c'est là où il y a la différence. Mmh. Et ces gens-là ont été désignés par les sociétés, se sont reproduits de famille en famille. Donc il y a un savoir médical, il y a un savoir du soin et de la prise en compte de l'autre, avec plus ou moins de savoir, qui se trouve dans toutes les sociétés.
Alors justement, aujourd'hui, Didier Sicard, on voit dans énormément de sociétés indigènes, il y a des connaissances sur les plantes en particulier, sur des façons de se soigner, et de plus en plus de scientifiques s'intéressent à ces savoirs, viennent étudier ces populations pour valider scientifiquement leurs connaissances. C'est une relation assez nouvelle quand même.
Oui, mais le dernier exemple, c'est l'artémisia, qui est un médicament d'origine chinoise, à partir d'une plante qui a été découvert, qui était d'une plante de tradition populaire depuis plusieurs siècles. Et on a démontré que c'était actuellement le meilleur traitement contre le paludisme. Et donc le problème, c'est l'exploitation quelquefois excessive des connaissances par les villageois d'un pays du tiers-monde totalement enfermé, au détriment d'une grande multinationale qui va percevoir font le bénéfice qu'elle peut faire à partir de ces connaissances transmises de siècle en siècle.
Donc ça, c'est tout le problème du brevetage aussi, hein, de ces plantes.
Parce que c'est, les plantes, elles sont difficilement brevetables dans leur ensemble. Et donc les revenus de ces connaissances qui devraient revenir à ces populations ne leur reviennent pas.
Alors la date de naissance de la médecine, c'est quand exactement ? Ça s'est passé pendant la préhistoire ? On commençait à soigner, voire à opérer ?
On sait évidemment uniquement les os, parce qu'on ne voit pas l'estomac de la préhistoire encore personne.
Eh oui, ça ne passe pas les époques.
Les os sont une extrême richesse, parce qu'on s'aperçoit que...
Et les dents ?
Les dents, les fractures. Mais ce qui m'a assez touché dans le chapitre qui a été écrit, c'est comment... Celui qui était fracturé, qui était tombé d'une falaise, brisé les jambes, les bras, survivait. Ça veut dire qu'il était aidé, qu'il y avait probablement ou des médecins, la famille, leur permettait de survivre à des désastres de fractures. Et que cette solidarité, cette médecine que, dont on perçoit simplement les traces, parce que, a priori, cet homme ou cette femme ne pouvait pas survivre à cause des fractures qu'elle avait, fait qu'elle ne pouvait pas se nourrir, elle ne pouvait pas rester debout, donc elle était accompagnée. Donc il y avait une médecine, mais cette médecine, bien sûr, on n'en sait pas grand-chose. On sait seulement que les maladies existaient, sinon les mêmes, parce que les gens mouraient plus tôt, à 40 ans, c'était la mortalité habituelle, mais ils avaient des tuberculoses. Quand ils avaient des bisons, eh bien, les bisons leur transmettaient la brucellose. Déjà, il y a des os de brucellose et que... la poliomyélite existait. Au fond, il y avait des stigmates ou des osseux qui témoignent de cette éternité de la médecine et des maladies.
Oui, alors pour attester de cette ancienneté de la médecine, des maladies, de la médecine et de ces soins qu'on donnait probablement et qui permettaient la survie, on a à l'époque historique, c'est-à-dire lorsqu'on a le langage et les traces écrites, on est étonné de voir qu'il y a une quantité extraordinaire de mots qui signifient soigner et qui sont très anciens, très antérieurs à l'époque hippocratique.
On les date à peu près à quand alors,
Ils apparaissent dans les premiers textes écrits, c'est-à-dire chez Homère, ouais. C'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. On a une quantité extraordinaire de mots qui veulent dire prendre soin, soigner, ça veut dire qui viennent donner iatros, le médecin, mais aussi la thérapeutique, bien d'autres encore. Et des noms de maladies aussi qui sont extrêmement anciens, qui arrivent déjà tout faits à l'époque hippocratique, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, on hérite déjà d'une connaissance qui va être transmise après par des écrits. Tout ça est très très ancien.
C'est-à-dire que prendre soin, c'est l'identité humaine. Voilà. D'ailleurs, et Jean-Claude Amezen a raison de dire que Darwin, au fond, a montré que l'humanité a survécu au drame qui aurait pu la survivre en aidant l'autre. Et non pas l'homme qui écrase l'autre, mais c'est par l'aide que l'on peut apporter aux plus fragiles qu'humanité survit elle-même.
Voilà, Jean-Claude Amezen qui contribue lui aussi, il fait partie des auteurs de ce livre. Une question de Larry pour vous, Armelle Debrue. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le serment d'Hippocrate que prononcent tous les médecins ? Aujourd'hui, l'ensemble des médecins, dit Larry, ne le respectent pas et pourtant s'en prétendent.
Ah, ça c'est une histoire terrible. Le serment hippocratique a été diffusé, disons... tardivement par rapport à l'époque où il a été écrit. On ne sait pas très bien, c'est assez obscur, c'est un texte obscur, magnifique, très religieux, de tonalité et en même temps extrêmement fort. Mais on pense qu'il n'était pas, disons, prêté par la totalité des étudiants en médecine. En fait, on sait très bien pourquoi il a été écrit. Il a été écrit à partir du moment où la médecine a cessé d'être transmise en famille, de père en fils. Et c'était le cas à l'époque hippocratique. Et à ce moment-là, lorsqu'elle s'est ouverte à des étrangers, à des nouveaux venus, on s'est dit qu'il faut les tenir par quelque chose, par un engagement. À la fois l'engagement par rapport à leur maître, à la transmission du savoir, ça c'est la première partie, et par rapport à des engagements moraux. Et ça voulait dire que c'était des nouveaux et non pas que c'était des gens qui avaient été formés par la tradition familiale. Alors c'est un engagement qui était connu au 1er siècle avant Jésus-Christ, après, etc. Bon, enfin peut-être qu'il n'était pas prêté, comme on le dit maintenant. Et s'il est prêté maintenant, c'est tout à fait récent. C'est tout à fait récent. Oui. Il a été remis en service, si j'ose dire, de manière récente. Peut-être. Et puis, il correspond, il a un côté un petit peu archaïque. Alors peut-être que Didier Sicard pourrait dire pourquoi il n'est pas, au fond, l'objet d'un engagement véritable, alors qu'il est vraiment très fort, et il devrait l'être.
Alors ?
Oui, parce que je pense que l'ensemble de la médecine a changé, et que a pris le pouvoir dans la médecine, la technique, les instruments, Et le médecin finit par être quelquefois au service des instruments qui lui rendent service. Il est évident que l'imagerie, la biologie nous rendent des services, permettent de guérir et de survivre à des maladies dramatiques. Et en même temps, le médecin a perdu une part de sa liberté et que s'engouffre dans la technique le marché, parce qu'il faut que la technique, comme elle coûte cher, qu'elle rapporte, il faut réinvestir, il faut que les appareils soient changés, comme nos ordinateurs, nos appareils portables. Et à un certain moment, on finit par oublier l'homme dans cette aventure, et que le serment d'Hippocrate apparaît en même temps d'une modernité extrême et d'un archaïsme et qui, justement, est provoquant. Et quand l'étudiant lit avec le bras levé en prêtant serment,
oui.
Au fond, il y a les larmes qui, quelquefois, surviennent dans le public en pensant que là, il y a une persistance d'une dignité de ce métier et qui me paraît quelquefois nécessaire à rappeler.
Aux origines de la médecine, aux éditions Fayard, on y revient avec vous dans un instant. D'autres messages sur franceinter.fr.
La tête, la tête, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Les yeux dans les yeux.
Le prince Miaou avec tous les garçons et les filles dans cette tête au carré consacrée aux origines de la médecine à l'appui d'un livre qui sort chez Fayard. Pour en parler, les professeurs Armel Debru et Didier Sicard. Alors Didier Sicard, vous avez beaucoup chatouillé les ostéopathes tout à l'heure. On reçoit pas mal de courriels, celui de Christian par exemple qui nous dit « Dire que l'ostéopathie est irrationnelle, de même que dire que la médecine occidentale est attentive et humble, c'est tout aussi fort. Si les médecins connaissaient l'anatomie aussi bien que les ostéopathes, ce serait déjà pas mal. » Et puis un autre auditeur, le docteur Sicard, a-t-il eu la curiosité de consulter les programmes de formation des ostéopathes et même d'expérimenter lui-même une séance? Si l'ostéopathie relève de l'irrationnel, dans ce cas, que dire de la kinésithérapie?
Je n'ai pas dit
réponse.
Je n'ai pas dit que c'était irrationnel. Je veux dire que ce n'est pas forcément la même rationalité. Les concepts, par exemple, d'une vertèbre déplacée ne correspondent pas aux concepts d'une médecine. Je ne dis pas que c'est une irrationalité, c'est une autre forme de rationalité extrêmement efficace.
Ah ben c'est pas pareil alors du coup, oui.
Et que, oui mais j'ai jamais dit que c'est irrationnel, je dis simplement c'est que c'est une autre approche. Et que la médecine, et c'est d'ailleurs à mon avis un des drames, a fini par abandonner le corps, l'examen. Or les ostéopathes connaissent parfaitement le corps, ont une plus grande conscience, et c'est le paradoxe, que les médecins dans l'approche du corps, mais on ne peut pas tenir l'ostéopathie et la médecine sur la même unité de raisonnement sur ce qu'on appelle la causalité des douleurs, la physiopathologie. C'est une approche différente. Mais comme depuis 5000 ans, il y a toujours eu des multiples approches du corps et que la médecine n'a pas le monopole d'une approche rationnelle. Mais les ostéopathes ne sont pas du tout des charlatans, c'est une vraie médecine.
Armel Debru, justement, au temps de la médecine hippocratique, quelle est la place du corps et de l'esprit? Alors, comment est-ce qu'on concilie tout ça?
Alors, c'est votre « et » qui pose un problème, parce qu'on a une conception du corps, hein, on cherche les affections, on a une recherche de la personne souffrante. Alors, naturellement, la personne qui a des maladies, qui a des douleurs, qui n'est pas bien, mais le psychisme aussi entre en ligne de compte. Mmh. Les affections comme la mélancolie, la manie, la folie, le délire, rentrent en ligne de compte. Là, exactement comme les douleurs ou les problèmes physiques. Il n'y a pas de « et », je veux dire, on n'a pas de distinction entre le corps et l'esprit, cette distinction catastrophique qui viendra après. Mais les hippocratiques travaillent sur l'humain en gène complet. Donc, dans les symptômes que ressent un individu, paraissent aussi bien les douleurs, mal de ventre, ou les tremblements, ou les peurs, ou les craintes, ou la dépression, enfin, ce qu'on appellerait la dépression. Donc, c'est tout un. Et ils essaient de soigner la totalité, c'est-à-dire les mêmes médicaments, les mêmes façons de faire pour les douleurs physiques ou psychiques.
Alors vous dites bien, Didier Sicard, que chaque période de l'histoire a vécu sa propre histoire avec la médecine. Alors qu'est-ce qui peut caractériser la médecine d'aujourd'hui d'ailleurs? Quels sont ces grands bouleversements, ces grands changements? Vous parlez beaucoup de la relation entre le malade justement et le médecin. La place du malade a beaucoup changé ces derniers temps. Est-ce que ça c'est une des singularités de notre époque?
C'est-à-dire qu'on est passé du malade 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, au patient, disons, dans les années fin du 20e siècle, à l'usager 21e. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, un changement radical. Et ce changement radical fait que, pour la première fois, il va y avoir le mélange, la persistance de l'imaginaire humain que chacun d'entre nous partage, et puis une médecine qui va devenir prédictive, intrusive, qui va vous prédire votre destin et qui va à la limite vous convoquer. La médecine va vous dire, vous n'avez pas fait d'échographie depuis 5 ans, faites une échographie pour voir si par hasard il n'y a pas quelque chose. C'est-à-dire, il y a une espèce de...
Vous parlez beaucoup du diagnostic dans le livre.
Diagnostic,
donc, avec ses écueils d'ailleurs.
Donc pronostic, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine médicale, avec ses bienfaits dont chacun reconnaît, finit par créer, avoir un empire sur l'humain. Et ce que je crains pour le futur, c'est que derrière la machine, il y a l'économie, et qu'à un moment donné, il n'y a plus qu'un seul acteur entre l'être et la médecine, c'est le marché. Et que finit par, au fond, l'économie, la médecine finit par coûter tellement cher que elle va s'orienter vers des maladies qui rapportent, être extraordinairement indifférente à la précarité. Or, quelle est la situation d'un être humain qui vit dans la pauvreté, la précarité, qui vit dans un pays où il n'y a pas de ressources médicales? il va probablement avoir beaucoup plus de chances d'être malade et de mourir. Et on le sait très bien que la différence de survie entre ceux qui sont dans l'échelle sociale la plus élevée et la plus basse est de plus en plus importante et ne se réduit pas. Et la médecine reste assez indifférente, au fond, en ne prenant pas en compte les facteurs énormes de l'environnement et en étant absolument obsédé par le plus petit gène, la plus petite image. Mmh. Et ce que je crains un peu pour le futur, c'est une confiscation de la médecine par la technique qui finit par laisser, alors, au fond, l'humain ayant le choix entre une médecine autre et puis une soumission à un diktat.
Armelle Debru ?
Oui.
Vous souhaitiez vous exprimer sur ce point particulier ? Je vous ai vu me faire un petit signe, donc je vous dis tiens.
Non, j'écoutais avec fascination cette transformation. C'est vrai que lorsqu'on dit que l'objet de la médecine n'est plus l'individu ou n'est plus la personne humaine, on entend souvent parler de ça. Et on dit oui, mais à l'époque hippocratique, on tenait compte de l'individu, c'était l'humain, l'humanisme, etc. Mm-hmm. Je crois qu'on se trompe un tout petit peu. Je crois qu'on fait une opposition trop stricte entre une médecine déshumanisée et une médecine humaine. Je crois qu'à chaque époque, on peut faire une médecine humaine et une médecine déshumanisée. À l'époque, de faire des incisions ou des cautérisations folles parce qu'on voulait chasser le mal, c'était aussi inhumain que maintenant, de faire des explorations sans fin. Donc, il y a une frontière entre l'humain et l'inhumain à toute période.
Alors justement, sur cette idée d'opposition, Nicolas nous envoie ce message. Il se demande si on peut vraiment envisager la distinction entre la croyance et la rationalité sans faire le postulat que la rationalité scientifique n'est pas de nature elle-même idéologique. La médecine, dit Nicolas, a fonctionné depuis toujours en se basant sur les croyances et continue aujourd'hui encore à le faire. D'une croyance divine à la croyance biotechnologique, il n'y a qu'un pas.
Oui, mais je suis absolument d'accord. Croyance, par exemple, dans le caractère réparateur des cellules souches. C'est un exemple typique où il y a la science le plus pointu du terme. Mm-hmm. Et en même temps, le penser que le vieillissement pourra être réparé par des cellules souches tirées d'un embryon ou d'un fœtus. Donc on voit très bien qu'il y a un transfert.
Hein.
Oui, on voit très bien que, au fond, au cœur de la science la plus sophistiquée, gît encore une espérance magique.
Dans cette médecine hippocratique, Armelle Debru, les femmes ont une place importante. Ça aussi, ça marque vraiment...
Ah oui, ça c'est vraiment
une nouveauté importante.
Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait extraordinaire et que les femmes apparaissent dans la médecine hippocratique d'abord au même titre que les autres. De même que les serviteurs, les esclaves apparaissent comme des malades, comme les autres. Là, il n'y a aucune différence entre les femmes, les enfants, les vieillards, les esclaves ou les maîtres. Et puis, il y a un énorme travail fait sur les maladies des femmes. Et là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'était le lieu de tous les irrationnels, justement, et de toutes les souffrances cachées, de tous les silences. Et le médecin hippocratique, la médecine hippocratique, décide de prendre en charge ces maladies-là, bien que ce soit très difficile, puisqu'on ne pouvait pas examiner les femmes, un homme ne pouvait pas examiner les femmes, mais il contourne et il s'intéresse à savoir... quelles sont ces douleurs-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps ?
C'était extrêmement difficile. Il y avait des femmes médecins ou pas à l'époque ?
Oui, très peu. Non,
alors, qui s'occupait des femmes ?
Eh bien, des médecins qui avaient des témoignages par les servantes, par les femmes elles-mêmes. Ils trouvaient un intermédiaire pour accéder au corps des femmes par des dires. Ils recueillaient les dires des femmes et ils regrettaient que les femmes n'en parlent pas, soient si pudiques et si silencieuses et ne disent pas la vérité, en réalité. Voilà.
Est-ce qu'on se préoccupait d'éthique à l'époque hippocratique ?
Alors, c'est une très bonne question, parce que je crois qu'on se fixe trop sur le serment hippocratique. L'éthique hippocratique, elle est dans les textes hippocratiques. C'est une éthique intrinsèque, comme on dit. C'est elle qui va dire comment il faut soigner pour être éthique. Et alors, les deux principes essentiels, c'est d'abord de faire du bien aux malades. Ce n'est pas le principe de bienfaisance ou de je ne sais quoi. C'est vraiment être utile. C'est en premier lieu être utile. Et deuxièmement, c'est de ne pas faire de mal si vraiment on ne peut pas être utile, d'apporter ce bienfait-là. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, le médecin doit être le serviteur de l'art. Il doit se mettre au service de la connaissance et ce n'est pas lui qui doit imposer quelque chose contre ce savoir-là.
Didier Sicard, le questionnement éthique aujourd'hui, évidemment, oui, fait partie intrinsèque de la médecine, ou devrait en tout cas faire partie intrinsèque de la médecine.
La grande difficulté, c'est l'alliance de la compétence et de ne pas nuire avec, au fond, la reconnaissance au sens de Paul Ricoeur, c'est-à-dire soi-même comme un autre, le malade comme appartenant à la même communauté humaine que celui qui soigne, avec le sentiment permanent que le malade est par essence dans une situation de vulnérabilité et que l'approche, cette vulnérabilité, doit engager le médecin dans un effort d'attention, non pas une compassion un peu molle, mais dans une reconnaissance qu'il est dans une situation asymétrique de pouvoir temporaire et qu'il doit être sans cesse à l'écoute du drame. Parce que toute maladie, même si elle est un petit peu pas trop grave, est une irruption de l'étrange en chacun de nous, et que le médecin doit se méfier d'avoir une sorte de discours pétri de rationalité, justement, en mettant à l'écart la perception par le malade de sa propre souffrance.
En lui disant, ou en tout cas en le protégeant de ce qui est acceptable pour lui.
Oui, au fond, on parle de démocratie sanitaire, comme si au XXIe siècle, le malade pouvait lui-même discerner ce qui lui était favorable. L'Internet est une excellente chose, mais le passeur, l'Internet a besoin d'un passeur, et je pense que le médecin est beaucoup plus qualifié pour interpréter Internet que, au fond, le site lui-même qui va toujours privilégier les pathologies les plus graves ou éventuellement celles qui vont rendre le service le plus grand au marché.
Didier Sicard, pour terminer, les prochains bouleversements, cette médecine de demain, quelles sont les prochaines évolutions possibles selon vous? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir déjà là?
Je pense qu'il y a une capture par l'informatique. La télémédecine, peut-être la téléchirurgie, un peu spectaculaire, la réparation de les greffes, les nanotechnologies, et surtout le transfert sur une information informatique. La biologie, je pense, aller dans un laboratoire dans 30 ans aura disparu, et que le médecin aura dans sa serviette un échographe portatif et une petite trousse qui permettra de savoir s'il a telle ou telle anomalie dans son sang.
Avec là aussi beaucoup de questions d'éthique. Armelle Debrout, très rapidement pour finir.
Je dirais que ce qui me frappe, c'est l'intérêt pour l'éthique des nouveaux professionnels, des jeunes médecins qui ont un appétit pour la réflexion éthique. Et je pense que c'est tout à fait nouveau et très important.
Aux origines de la médecine, donc ouvrage passionnant aux éditions Fayard, sous votre direction, Didier Sicard, avec un certain nombre d'articles et de contributeurs, dont vous, Armelle Debrouille. Merci beaucoup d'être venu dans la Tête au Carré. Dans un instant, on va parler d'amalgame dentaire. On reste sur le terrain de la médecine avec la chronique de l'Express. Et Vincent Olivier, ce sera juste après « J'ai jamais su » et Jacques Higelin.
Jamais su sur quel pied danser avec toi. Jamais su quelle attitude adopter pour m'adapter à ton pas. Un pas en avant, trois pas en arrière. Pas comme si, pas comme ça, pas comme tout le monde. J'ai jamais su sur quel pied danser avec toi. Jamais su quelle attitude adopter m'adapter à ton pas. Tout bonheur que la main n'atteint pas est un leurre. Tout bonheur que la main n'atteint pas. Corps à corps avec toi. pas là, non. Sans que tu me plantes d'un seul regard. Deux couteaux dans le dos, sous les flashs hypnotiques du stroboscope. Tachycardie, je tombe en syncope. Entre deux grands écarts, duel d'ego. Entre chars, mambo.
Jacques Higelin sur France Inter et toute la programmation musicale sur le site de l'émission franceinter.fr.
La chronique de Vincent Olivier avec l'Express.
Bonjour cher Vincent.
Bonjour Mathieu.
Cette semaine, il faut pianoter sur l'express.fr pour découvrir un sujet sur les amalgames dentaires.
Oui, le sujet en soi n'est pas vraiment neuf, mais il a pris tout récemment une actualité nouvelle, puisque la semaine dernière s'est tenue à Nairobi, donc au Kenya, la troisième étape des négociations internationales sur le mercure, et cela sous l'égide des Nations Unies. Et quel est le but de ces négociations? Eh bien, c'est de parvenir un jour à créer un instrument juridique pour contraindre les pays qui utilisent le mercure dans les amalgames dentaires, des pays comme la France, et donc pour les contraindre à donc en utiliser un petit peu moins qu'aujourd'hui.
Mmh. Est-ce qu'en France, on en utilise plus,
ouais,
moins?
Beaucoup. Le problème, c'est ça le problème. C'est que l'Ordre des dentistes, d'ailleurs, le reconnaît lui-même. 70% des obturations pour les molaires et pour les prémolaires se font en France avec des amalgames au mercure. C'est même un record européen. On estime qu'il y aurait à peu près chaque année entre 17 et 18 tonnes de mercure comme ça qui se volatilisent dans l'atmosphère à cause de ces amalgames. C'est ce qu'on appelle en fait en langage courant des plombages. Et donc ce ne sont pas des plombages justement, puisque c'est des plombages qui ont non pas du plomb, mais du mercure.
Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait ailleurs?
Eh bien, tout simplement, on s'en passe, ou en tout cas, on utilise d'autres procédés, notamment des produits de remplacement à base de verre, qui s'appelle un verre qui s'appelle ionomère. Trois pays d'ailleurs en Europe ont d'ores et déjà renoncé ou banni l'usage du mercure. Ce sont la Norvège, le Danemark et la Suède entre 2008 et 2009. De façon plus générale d'ailleurs, le Conseil de l'Europe s'est officiellement prononcé en juin dernier pour, je cite, la restriction, voire l'interdiction des amalgames. Et de leur côté, les États-Unis, enfin le gouvernement américain, s'est déclaré pour une suppression progressive des amalgames. Et d'ailleurs, il a défendu cette position durant le sommet de Nairobi. En fait, pour dire les choses autrement, la France est le seul pays développé.
C'est désespérant.
Non, mais je suis d'accord, parce qu'on ne comprend pas comment ça se passe.
Non,
mais
non,
c'est
non,
le seul
non.
pays à s'être officiellement opposé aujourd'hui encore à l'arrêt des amalgames
c'est
en Europe.
C'est incroyable. On sait pourquoi les dentistes français aiment tellement ces amalgames au mercure.
C'est un peu compliqué. D'abord, il faut savoir que ces amalgames remontent au 19e siècle et qu'à l'origine, ils permettaient de se passer d'or. Et donc, c'était d'abord, économiquement, c'était intéressant. Et donc, non seulement ils ne sont pas très coûteux, mais en plus, ils sont assez pratiques, ils sont assez faciles à poser. D'autres avantages, c'est qu'ils sont extrêmement résistants à l'abrasion. Mmh. Et donc, comme ils sont moins compliqués à poser, surtout que les amalgames récents, ceux qui sont, on a vu, à base de verre ionomère, eh ben les Français, en tout cas les dentistes français, un peu par facilité, il faut bien le dire, ont tendance à prendre ça. C'est rapide, ça coûte pas cher et ça rapporte finalement pas mal d'argent. Donc, ils ont des avantages indéniables à ces amalgames. Mmh. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que les dentistes français, à la différence de leurs homologues européens, restent persuadés que ces amalgames-là, à base de mercure, ne sont pas dangereux pour la santé. Et ça, il faut bien reconnaître, c'est un peu incompréhensible, mais c'est ça. Il y a vraiment une conviction de la part des dentistes que non, il n'y a pas tant de dangers que ça.
Alors, quels sont précisément les dangers du mercure? Il doit bien y en avoir quand même.
Évidemment, parce qu'un amalgame est composé à 50% de mercure. Donc, ce métal est d'abord en permanence libéré sous forme de très fines vapeurs. Alors, c'est une libération très très faible, mais c'est bien des libérations quand même. Et donc, il est inhalé en grande partie. Et il passe donc dans le sang, puis dans les organes, et c'est là qu'il va petit à petit s'accumuler, c'est là où ça va poser des problèmes, notamment ces métaux lourds. Et les scientifiques estiment ainsi que le mercure contribue pour les deux tiers au total de l'imprégnation de mercure dans le corps humain, et particulièrement dans le cerveau, là où justement il y a des problèmes.
Oui.
Or, il n'existe pas de niveau d'exposition sans risque pour la population générale, car le mercure est toxique à la fois pour le système immunitaire, le système endocrinien, le système reproducteur, et même pour le système nerveux en développement. La preuve, c'est que la pose d'amalgame chez une femme enceinte en début de grossesse multiplie par 4 ou 5 le risque de fente palatine. La fente palatine, c'est ce qu'on appelle le bec de lièvre, en langage courant.
Il faut faire de la résistance, Vincent, auprès de son dentiste pour qu'il arrête de nous mettre du mercure
dans
la bouche.
Il faut demander d'abord ce qu'il a mis. Et puis, ce qu'il a où c'est compliqué, c'est que c'est compliqué à poser, mais c'est encore plus compliqué à enlever.
Oui.
C'est dangereux à enlever.
Donc, il faut trouver le dentiste qui pose du verre, c'est ça en
c'est
fait
C'est cela, hein. Il faut lui poser la question avant qu'il commence, effectivement.
Voilà, donc il faut le chercher sur Internet et puis ensuite faire du lobby. Merci beaucoup. Express.fr pour
c'est
retrouver
ça.
Cet article. À bientôt, à mardi, Vincent.
À la semaine prochaine.